Bonsoir, Michel Murator. Nous nous retrouvons pour un alter-regard. Alors, le tout technologique accapare les débats. Les principales réponses proposées par les États, les entreprises et de nombreux scientifiques à tous les défis écologiques s'appuient immanquablement sur une relance de la recherche et de l'innovation high-tech, avec derrière une multitude de solutions techniques complexes, intelligence artificielle, la robotique, la numérique, les énergies vertes, les avions à hydrogène, la 5G, pardon, qui nous offrent des promesses de performance et de productivité sans faille. Mais l'innovation ne doit pas être que technologique. Elle est aussi sociale, organisationnelle, institutionnelle, citoyenne. Quelle utilité des services et des objets issus de ces nouvelles technologies? Est-ce qu'ils répondent tous à un besoin essentiel? J'ai l'habitude de poser la question, quelle utilité sociale? On parle beaucoup de smart city et un peu de ville low-tech. Avec mes invités, nous verrons comment ils voient la ville en 2040, smart city ou low-tech. Et d'ailleurs, doit-on les opposer? Je reçois donc Jonathan Cassia et Lucas Zufik. Donc merci d'avoir répondu à ma demande de participer à cette émission. Je précise que vous venez un de Marseille et un du Var, donc encore plus, voilà. Alors je vais vous laisser vous présenter, donc, je ne sais pas qui veut commencer.
Bonjour, Lucas Zufik. Du coup, je suis ingénieur de formation et je travaille pour une association qui s'appelle Amerma et qui réfléchit à la réindustrialisation du territoire dans une démarche low-tech.
Voilà, donc vous êtes plutôt industrie et Jonathan.
Oui, bonjour. je suis Jonathan Cassia, je suis architecte. Je travaille principalement à Marseille. Et j'ai plusieurs casquettes, donc je suis aussi président d'une association qui s'appelle Tala et qui est un tiers-lieu citoyen dans lequel justement on à une petite échelle on expérimente des démarches d'une urbanité low-tech, si on peut dire ça comme ça simplement.
D'accord. Alors, chacun, est-ce que vous pouvez, puisque bon, on est part sur une plutôt le low-tech que la smart city, n'est-ce pas, un peu présenter vos recherches, vos travaux dans le cadre de cette ville low-tech. Donc on a là l'urbanisme plutôt, parce que architecte tout seul, c'est un peu juste pour cette démarche, non? Vous êtes, voilà, si vous pouvez expliquer donc un peu vos travaux et les mettre dans le cadre de cette ville dont on parle aujourd'hui.
Oui, alors moi je travaille en fait sur différents types d'échelles, ce qui me permet de relier justement une approche assez globale et systémique d'une manière de penser et de faire la ville. Avec des démarches qui sont beaucoup plus concrètes, justement de là, typiquement avec l'association Tala, où on est dans des démarches d'expérimentation, mais aussi en passant par des projets qui sont de manière un peu plus conventionnelle en termes de réhabilitation, donc d'architecture. Mais malgré tout, même avec ces projets conventionnels où principalement je travaille avec ma clientèle, c'est des privés qui vont réaménager leur maison, leur appartement, des extensions, des surélévations, ce genre de choses. C'est aussi un terrain expérimental pour pouvoir arriver à appliquer justement ces types de démarches de comment transformer, améliorer le cadre de notre cadre de vie. Donc de la plus petite échelle à un système de ville comme l'échelle métropolitaine, c'est de cette variété là.
Vous allez parce que bon quand on y pense, on pense plus à l'échelle d'un quartier et vous vos travaux vont jusqu'à l'échelle métropolitaine.
Alors oui, mais à travers des projets très spécifiques qui me donne je cherche à chaque fois des situations qui me permettent de travailler dans des échelles différentes pour justement arriver à trouver le lien qu'il peut y avoir entre l'habitant et le fonctionnement d'une ville. Et pour justement ne pas perdre ce lien-là, si je fais ça, c'est clairement en réaction d'un mode de faire la ville aujourd'hui assez conventionnel qui, par sa multi-spécificité, multi-spécialité que peuvent avoir aujourd'hui, on en pense quand même la ville de manière très... il y a une vision d'expert, donc il y a ceux qui y a les sachants et il y a les habitants d'un côté. Et donc le fait de pouvoir à chaque fois penser à travers un tel est spécialiste 2, il va répondre à ça, un tel est spécialiste 2, il va répondre à ça. En fait, on oublie à relier l'ensemble pour voir si justement il y a une cohérence ou pas. Et le constat, clairement, c'est que souvent la cohérence, elle n'existe pas en fait. Et donc c'est en ça où. Il faut arriver à repenser un peu autrement et trouver des moyens qui permettent de repenser autrement la fabrication de la ville.
Et vous êtes une équipe, donc vous êtes architecte, vous travaillez avec quels autres...
Alors là, je pourrais vous dire que je suis une agence de 50 personnes, mais en fait, pas du tout. moi, je travaille à mon compte, je suis seul. Par contre, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt les situations de projet qui fabriquent les équipes de réflexion. Exactement. Et du coup, ça permet d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus précis sur les réponses apportées à chaque projet, puisque justement, la composition même de l'équipe de réflexion qui accompagne un projet est complètement personnalisé et adapté en fonction du besoin. Donc c'est comme ça que là, entre autres, on se retrouve avec Lucas autour du projet d'Amerma qui nous rassemble sur un sujet qui m'intéresse et inversement, Lucas, enfin en fait c'est un peu comme ça qu'on fonctionne.
Oui, beaucoup de souplesse selon les projets. Oui. Alors vous travaillez plus sur le site d'industrie, disons, pour faire court. Oui. Alors c'est vrai que moi j'ai l'habitude de dire, nous dans les Alpes-Maritimes, on n'a pas vraiment d'industrie, on a surtout de matières grises avec Sophia Antipolis, il y a quelques sites mais pas beaucoup. D'ailleurs, on parle beaucoup des friches industrielles. Bon, nous, on n'en a même pas à réaménager. Ce serait intéressant. C'est un dossier intéressant, ça, réaménager des friches industrielles. Oui. Par contre, ce qu'on a, c'est des bureaux abandonnés. Il faut savoir, sur Sophia Antipolis, il y a 35 000 mètres carrés de bureaux vides. Qu'ils datent des années 70, donc les entreprises n'en veulent plus aujourd'hui. Et du coup, la question se pose, comment là, vous pourriez effectivement intervenir. Et vous considérez, c'est l'industrie, c'est quoi pour vous ?
Nous, on s'intéresse à des projets qui sont nécessaires pour une transition écologique et sociale du territoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées pour améliorer les choses, améliorer les processus et changer par rapport à des processus conventionnels qui sont aujourd'hui délétères sur plein de plans, que ce soit au niveau économique. Aujourd'hui, on produit plus rien, donc c'est un peu problématique au niveau économique. C'est évidemment problématique au niveau écologique. Entre le fait que la production soit complètement délocalisée, soit faite ailleurs dans des normes qui sont moins strictes que chez nous et surtout qu'on peut pas contrôler, puis avec le transport, etc. L'idée, c'est de refaire ici pour améliorer à la fois ce rapport économique, ce rapport écologique et puis créer de l'emploi de qualité sur le territoire, ce qui s'inscrit complètement aussi dans le comment on vit dans sa ville, quoi, comment on habite sa ville, est-ce qu'on a du travail de qualité qui est proposé dans la ville ou non. Et donc aujourd'hui, nous, on essaye de faire en sorte que des alternatives à ces modèles conventionnels puissent passer d'une échelle artisanale à une échelle qui soit un peu plus intéressante pour qu'elle soit démocratisée. Donc faire en sorte, par exemple, que des gens qui vont travailler sur les écomatériaux pour de la rénovation écologique des bâtiments puissent finalement disposer d'un espace de travail et des équipements adaptés, des équipements industriels, qui vont leur permettre de coopérer ensemble et finalement, ensemble, d'arriver à proposer une alternative crédible.
C'est-à-dire que vous travaillez sur comment proposer industriellement des matériaux, des idées, des matériaux, oui, qui permettent de rénover, de rentrer dans, ou de recréer de l'industrie aussi.
Nous, en fait, ce qu'on fait avec Amerma, c'est qu'on accompagne des gens qui ont des projets, ont déjà des procédés industriels, plutôt semi-industriels ou artisanaux. on les regroupe parce qu'on sait qu'ils ont, on voit qu'ils ont des besoins qui sont concordants. On les fait échanger, discuter ensemble, voir quels seraient les besoins industriels qui seraient communs à ces industriels ou ces artisans. Et on essaye de faire en sorte de coopérer pour avoir des espaces et des équipements industriels mutualisés qui vont bénéficier à tous les coopérateurs, quoi. Voilà.
Alors, vous avez parlé tous les deux d'Amerma. On pourrait présenter Amerma, là, c'est une association.
C'est une association.
C'est un bureau d'études. Vous travaillez comment et avec qui? En gros, c'est ça, quoi.
Alors, Amerma, c'est une association qui est née en août 2022. La première action de l'association, ça a été de rédiger une étude qui a été publiée par l'ADEME en septembre 2023 et qui s'appelle « Étude d'opportunités de déploiement d'écosystèmes industriels low-tech en PACA ». Voilà. Depuis, à Merma, ben, on a beaucoup présenté dans divers événements, on a présenté cette étude pour l'ADEME, et ce qui nous a permis d'accueillir des nouveaux membres qui se sont montrés intéressés par la démarche qu'on proposait. Et donc aujourd'hui, Amerma, c'est une équipe donc toujours associative qui est assez multidisciplinaire, je dirais, avec pas mal de profils techniques, mais sur des secteurs assez différents. Donc on a des designers industriels, on a des ingénieurs, une ingénieure en agroalimentaire, un économiste, des architectes urbanistes, ce qui nous permet finalement de nous intéresser à différents secteurs, toujours avec la même démarche, dans l'idée de les faire grandir pour qu'ils deviennent des alternatives crédibles.
Avec une approche plus systémique des problématiques.
Avec une approche assez systémique, on essaye de s'intéresser un petit peu à tout ce qui touche à cette activité, finalement, pourquoi on s'y intéresse. Donc ça, c'est la première chose. Donc on part de constats économiques, écologiques, sociaux. On s'intéresse, on voit qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est existant, pourquoi ça se développe pas plus, quels sont les freins à son développement. Est-ce que ce serait intéressant de le développer dans la ville? Est-ce que ce serait intéressant de le développer aux frontières de la ville, à une échelle métropolitaine? Bref, à quelle échelle il faut s'intéresser? Est-ce qu'il y a évidemment aussi des compétences qui sont déjà présentes, ou est-ce qu'il faut développer des compétences? Donc bref, ça touche vraiment au développement de filières dans leur ensemble. Donc c'est une approche qui est en effet assez, assez systémique.
Et on réfléchit à la ville, pas simplement la ville dortoir, disons. On y revient après, en détail. Mais c'est-à-dire avoir la ville où on dort, mais où on peut travailler aussi, où on fait ses courses aussi, et dans cette approche-là que vous fonctionnez.
Et où on produit finalement des choses qui sont utilisées par les habitants de la ville, déjà. Et pour finir de répondre à la question donc de avec qui Amerma travaille, donc Amerma aujourd'hui travaille avec des acteurs très diversifiés, c'est-à-dire qu'on va accompagner donc des acteurs qui sont des acteurs économiques, industriels ou plutôt du monde de l'artisanat. Donc ça, c'est le cœur vraiment des gens avec qui on travaille. Mais on va travailler aussi avec les institutions, donc l'ADEME, l'ADRET, l'ADREAL, bref, des institutions territoriales qui sont chargés des projets territoriaux, quoi. Et on travaille aussi en lien avec les collectivités, puisque évidemment on va s'intéresser à des problématiques foncières. Voilà, si on veut redévelopper des activités industrielles, ben à un moment il faut aussi du foncier industriel, il faut avoir accès à des endroits qui soient desservis, qui soient rénovés, qui soient adaptés finalement à l'activité qu'on veut proposer. Et donc pour tout ça, on est aussi en lien avec les collectivités. Et enfin, on a pu présenter notre étude et puis présenter nos projets finalement sur le long terme à des instituts de formation. Donc par exemple, on peut citer Polytech Marseille qui a un master spécialisé qui s'appelle économie circulaire et organisation durable. Donc qui travaille aussi sur tout ce genre de thématiques. Et qui vont permettre aussi de développer des compétences. Il y a une école Être, donc Être pour école de la transition écologique, qui s'est développée à Marseille. On travaille aussi avec eux. Et on est en lien avec beaucoup d'instituts de recherche de Aix-Marseille Université, parce que évidemment, la démarche qu'on propose, elle pose énormément de questions qui aujourd'hui ne sont pas répondues, parce que on cherche toujours à aller dans le même sens ultra technologique, et finalement, là, parler d'une autre possibilité de travailler, c'est aussi s'intéresser à la gouvernance, c'est aussi s'intéresser à l'organisation du travail, c'est aussi peut-être s'intéresser à d'autres méthodes. J'en parlais avec une entreprise qui s'appelle Labeltech, qui est en Normandie. Eux, par exemple, ils ont développé une méthode qui s'appelle TELED, c'est tâche énergivore lorsque l'énergie est disponible. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vient questionner quand même, poser question d'une autre organisation du travail finalement avec si on est alimenté au solaire, par exemple. Bref, et donc du coup, on travaille aussi avec la recherche parce que ils vont, nous, on peut leur poser plein de questions et eux, on peut alimenter un peu leur recherche et eux, ils peuvent venir faire du terrain, voir un peu ce qu'on fait avec Amerma, voilà.
Et quand j'ai préparé, j'ai trouvé l'AREP, qui était aussi quelqu'un d'important dans ces réflexions. Là, vous êtes en relation avec eux, vous travaillez avec, vous non ?
Alors moi, non, pas directement, mais c'est, comprendre de, enfin, le Philippe Biwix peut-être de l'AREP, c'est ça ?
Oui.
Peut-être parce qu'il a été, c'est une des personnalités qui est assez influente dans par rapport à ces réflexions-là, puisqu'il a écrit certains ouvrages assez marquants justement pour permettre de pouvoir arriver à visualiser d'autres types d'imaginaires qui sont des imaginaires souhaitables pour la vie de demain. Donc ça c'est clairement des personnes...
D'être dans les mêmes recherches, je dirais, parce que bon...
Avec Philippe Biwix, on s'est croisés la dernière fois en février au Forum Low-Tech qui a été organisé par Centrale Nantes. Donc Centrale Nantes, au passage, c'est l'école où j'ai été formé. Et c'est la première école d'ingénieurs de France à avoir développé une option qui s'appelle ingénierie des low-tech. Donc dans des grandes écoles d'ingénieurs, aujourd'hui, on s'intéresse au sujet des low-tech. Et donc évidemment, l'intervention de Philippe Biwix était un peu le point d'orgue de cette rencontre du Forum Low-Tech. Donc j'ai pu échanger avec lui un petit peu. Mais oui, aujourd'hui, Philippe Biwix est une figure de référence dans les low-tech, puisqu'il a écrit L'âge des low-tech, il me semble, en 2010. Donc largement avant un peu l'engouement qu'on peut sentir aujourd'hui autour des low-tech, donc il était assez précurseur sur ça. Je crois que d'ailleurs ça l'a un peu propulsé en tant que spécialiste de l'économie en matière, en matériaux, etc. Ce qui l'était pas forcément. Et là, il vient de sortir un ouvrage, donc il vient l'année dernière, il me semble, un ouvrage écrit à six mains, du coup, à trois personnes, avec des urbanistes, qui s'appelle La ville stationnaire et qui est aussi très intéressant. Oui.
À la fin, on redira toutes ces références pour nos auditeurs qui ont envie d'en savoir plus. Alors, on est parti tout de suite sur la ville low-tech, mais il y en a qui sont encore sur la smart city. Donc, est-ce qu'on peut avoir une définition de cette smart city ? En gros, c'est je réponds par la technique, répond à tous les problèmes, tous les deux, c'est ça ? Donc, avoir une définition, votre définition est un peu plus fine que la mienne, quand même.
Je ne vais pas la définir... clairement, mais en tout cas l'idée derrière qu'est la Smart City, c'est comme vous avez dit assez bien, c'est que c'est la technologie qui peut répondre aux problématiques sociétales de manière très générale, aux problématiques du quotidien, et donc en fait c'est une délégation à une technologie ou des technologies pour arriver à subvenir à certains besoins.
Mais on verra plus tard que ça peut aussi... Le problème, c'est quand ça crée des besoins.
Ben oui, voilà, alors c'est tout le défaut de cette idéologie-là. C'est-à-dire que la technologie même nécessite beaucoup de ressources pour pouvoir qu'elle puisse exister, tout simplement. Donc déjà, il y a un souci de ressources. Qui est assez énergivore. Et en plus de ça, effectivement, les problèmes liés par la technologie on va pouvoir répondre à ce problème-là par rapport à une autre technologie qui va répondre à un problème technologique. Et donc là, on en vient à vraiment une démarche qui est absurde en réalité, puisque ça n'a pas de sens. La technologie, c'est un outil. Et aujourd'hui, on nous la vend comme une solution, alors que ça n'a rien à voir. un marteau reste un marteau et on va pas peindre avec un marteau, et on pourrait le faire, mais c'est pas l'outil adapté. Donc on est vraiment dans cette illusion que la Smart City, et en plus, alors après il y a tout le discours, comment dire, le packaging commercial autour de la Smart City, qui est on dit smart, donc c'est intelligent, mais on pourrait se questionner de quelle intelligence on parle. Quand on parle d'intelligence artificielle, est-ce qu'on parle de quelle intelligence on parle? Donc il y a quand même vraiment une manière d'aborder ces types d'idéologies qui sont, en effet, dès qu'on commence à questionner ces manières de faire, ben en fait on se rend compte que c'est beaucoup, on se détache totalement d'une approche humaine, sensible, qui répond à des besoins réels. On est beaucoup plus sur des dimensions spéculatives, commerciales, technologiques. Enfin voilà, on est dans le techno-solutionnisme. Enfin c'est donc c'est vrai que pour le coup, la Smart City, en parallèle à la ville low-tech, on est dans quand même deux manières d'appréhender, c'est deux manières différentes. Mais après, ça n'empêche pas que dans la ville low-tech et même dans les démarches low-tech, il n'y a pas de technologie. Mais c'est juste qu'on ne parle pas exactement de la même chose.
Est-ce qu'on, quand vous parliez des écoles, les ingénieurs, on les forme dans quel état d'esprit? Majorité, parce que vous avez cité Nantes où il y a, mais bon, oui. c'est une exception, ça, non?
Alors, pour l'instant, oui, ça fait encore figure d'exception. Après, on peut avoir quand même bon espoir que ce soit en train de changer. Moi, sur les dernières années, là, j'ai travaillé à accompagner des instituts et l'enseignement du supérieur en général, à inclure des sujets de transition écologique et sociale dans les formations, voire même à transformer les formations qui allaient pas du tout dans ce sens pour qu'elles soient plus tournées vers la transition écologique. Donc on peut espérer que ça arrive. D'ailleurs, je parlais avec la personne qui a monté cette option ingénierie des low-tech à Centrale Nantes, qui s'appelle Jean-Marc Benguigui. Il m'a dit que depuis que l'option est sortie, donc en septembre 2022, il y a eu la première promotion, il me dit qu'il est sous l'eau parce qu'il est demandé par les médias et il est demandé surtout par énormément d'universités et d'autres écoles d'ingénieurs qui lui demandent un témoignage de comment il a fait pour instaurer ça dans son école, avec qui il travaille, etc. Donc je pense que ça va faire des émules. Mais c'est sûr que pour l'instant, les écoles d'ingénieurs, elles forment plutôt des ingénieurs qui vont bien rentrer dans le moule et qui vont être de qualité pour continuer à aller dans ce sens ultra technologique, c'est sûr.
Je pensais, ça renvoie à ce qu'on appelle les communs aussi, toute cette réflexion. Je pensais, vous travaillez peut-être avec des paysagistes. Moi, j'ai accompagné un jeune sur son mémoire de fin d'études qui était à Blois, qui forme des architectes paysagistes. Et vraiment, il avait, c'est pour ça qu'il m'a sollicité, vraiment une approche du paysage comme un bien commun. Et là, on peut aussi dire la ville, c'est quand même un bien commun, donc on réfléchit comme un bien commun et non pas simplement moi, qu'est-ce que je fais.
Oui, mais d'ailleurs, ça me fait penser à l'exemple de Smart City qui est peut-être le plus connu, c'est Google à Toronto, où en fait, justement, la privatisation complète de la ville qui était devenue smart, intelligente, et que tout ça avait été fait par Google, ben finalement ça a posé énormément de questions de privatisation des données, d'accaparation des données, de privatisation des services de la ville, et donc l'expérience a
Ils en reviennent.
Il y a eu une fin totale de l'expérience. Je crois que c'était en 2019. Et voilà. Et donc, du coup, c'était vraiment ce sujet de, finalement, qu'est-ce qui est commun? Qu'est-ce qui appartient à l'individu? Et puis, qu'est-ce qui appartient à des sociétés privées? Et finalement, privatiser la ville, c'était pas possible. Même à Toronto, même en Amérique du Nord, finalement, ils en sont revenus, quoi. Ça me fait penser comme ça aussi à la c'est Alain Damasio souvent qui parle bien de la privatisation de la ville. Je crois que c'est dans Les Furtifs, la ville Orange qui appartient à Orange et ce genre de choses. Oui. Bah là, Toronto, c'était en train de devenir à Google et du coup ils en sont revenus. Ouais.
Plus dans la ville maintenant. Donc on va dire que bon, une ville, c'est se loger. Donc comment on conçoit l'urbanisme pour se loger, mais en même temps c'est produire, donc comment on y travaille, s'approvisionner, c'est les déplacements, comment je fais, je vais au supermarché qui est à la sortie de la ville, où je trouve dans mon quartier tout ce dont j'ai besoin. Et puis il y a la place des loisirs aussi, parce que les loisirs, ça entraîne du déplacement, ça entraîne de... donc comment dans la ville. Donc pour moi, ça c'est les enjeux, disons, d'une ville, c'est les questions qu'on se pose à l'échelle d'une ville. Et donc comment vous répondez, soit en low-tech, soit en smart city, peut-être, je ne sais pas. Vous allez peut-être me dire que la smart city répond mieux à ça ou ça, mais je ne pense pas, sinon vous ne seriez pas là.
Oui, alors. Déjà, quelque chose que je voudrais relever, c'est que vous avez dit c'est des enjeux qui correspondent à la ville, mais en fait c'est plus large que ça même. Je pense que c'est des enjeux qui correspondent aussi bien à la ruralité et qui correspondent finalement à notre façon d'exister. Et d'ailleurs, les cinq thématiques que vous avez citées, donc consommer, produire et travailler, se loger, se nourrir, se déplacer, c'est les cinq groupes de travail de la Convention citoyenne pour le climat. Donc les citoyens qui avaient été tirés au sort, tout ça, ils avaient été répartis dans des groupes de travail, et finalement, quand on regarde leur rapport, on retrouve ces cinq familles-là.
Je savais pas.
Ouais, eh ben, on a écrit avec deux amis à moi une bande dessinée qui s'appelle « À portée de main » et qui illustre en fait les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Et on essaye de montrer un imaginaire un peu désirable d'une transition écologique et sociale qui a été proposée par des citoyens. Donc en plus, c'est un bien commun. Donc c'est très intéressant, le dispositif est intéressant. Et le rapport était vachement ambitieux par rapport à des politiques qu'on peut avoir de façon classique. Ça, c'était juste pour introduire et dire qu'en fait, bah, ça correspond aussi aux enjeux de la ruralité, pas forcément que de la ville, quoi. Jonathan, peut-être quand on parlait un peu de ces thématiques, tu me disais faut peut-être pas les séparer et les individualiser chacune.
Oui, toujours, c'est un peu toujours cette tendance à essayer d'arriver à prendre un sujet, le décortiquer, regarder.
Oui, mais c'est comment... la question, c'est bien ça, comment on les met ensemble?
Oui. Non. c'est une bonne question. En fait, c'est pour ça que l'autre, on va remettre sur la table l'histoire des communs, puisque c'est un peu justement. Un des outils qui permet d'arriver à recréer des liens là où il n'y en a pas. Et effectivement, c'est une penser aujourd'hui les communs dans un territoire, c'est penser la manière d'arriver à créer une communauté d'acteurs qui puissent être d'un côté émancipés individuellement, puis émancipés collectivement pour arriver à habiter son environnement de manière très générale. Et donc je vais prendre quelques exemples ou des contre-exemples qui démontrent l'intérêt en fait d'arriver à créer ces nouveaux types d'environnement. C'est qu'aujourd'hui on pense la ville entre espace public et espace privé, et on présuppose que l'espace public pourrait répondre aux besoins des citoyens, d'une certaine population, alors qu'en réalité l'espace public il n'est public qu'en son nom, puisque c'est quand même une délégation que chacun d'entre nous on fait à une institution publique qui va entretenir, qui va améliorer l'espace, qui va... Et donc, à aucun moment, on a des environnements propices à développer collectivement des manières de faire, d'habiter. Et du coup, le commun, il répond complètement. Et c'est ce qu'on peut retrouver dans certains villages, où en fait, Enfin, les communs, pour le définir simplement, c'est une chose. Donc, c'est pas forcément un espace, mais qui est viable et qui existe grâce à une communauté d'acteurs. Donc, sans cette communauté d'acteurs, le commun n'existe pas. Et donc, on a besoin d'avoir des environnements qui soient propices à faire ensemble, pour arriver à mieux habiter son environnement de manière générale. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les communs sont de plus en plus développés par les tiers-lieux. Donc aujourd'hui, quand on a plusieurs manières d'aborder le tiers-lieu, mais souvent on le simplifie en disant le tiers-lieu, c'est le tiers-espace. Du coup, c'est pas l'espace où on habite, c'est pas l'espace où on travaille, c'est l'espace où on fait autre chose. Moi, je préfère le tiers-lieu vis-à-vis de la pensée de Gilles Clément, où il parle, lui, de tiers-paysage, où dans le tiers-paysage, c'est l'espace qui est délaissé entre deux et qui en fait, le paysage sauvage dans un environnement urbain. C'est celui qui va avoir un certain type de liberté, qui va générer forcément une richesse, puisque la nature sauvage est beaucoup plus riche qu'un jardin maîtrisé. Mais bon, bref, du coup, je préfère clairement la notion de Gilles Clément pour pouvoir aborder cette approche des tiers-lieux et qui intègre justement cette notion de commun. Parce que c'est, après, aujourd'hui, on entend beaucoup parler des tiers-lieux, mais si on pose la question à chaque fois des communs à travers les tiers-lieux, on se rendrait compte qu'il y a peut-être 10% des tiers-lieux qui ont comme base fondamentale et comme valeur les communs, et qui utilisent les communs comme outils.
Ce serait intéressant, une émission sur les tiers-lieux. Je connais un peu la friche d'Abel de Mai, qui n'est pas forcément... Enfin, pour moi, ce n'est pas un tiers-lieu. C'est pas... Par contre, Montpellier, je ne sais pas si vous connaissez le tiers-lieu à Montpellier, je ne sais plus le nom, qui est vraiment un espace qu'ils ont voulu commun, et tout ce qui se passe est fait en commun. Parce que la question qui se pose dans tout ça aussi, c'est comment on implique les citoyens dans cette réflexion, parce que vous parliez du lieu public, mais de plus en plus ces lieux publics qui sont fermés, il ne faut pas qu'on y traîne dedans, et ils sont avec la vidéosurveillance. Donc on se demande comment ces lieux, pour qui ils sont publics. Pour moi, si c'est un lieu qui est fermé à 7h du soir et qui est sous vidéosurveillance toute la journée, je n'ai pas envie d'y aller.
Je peux peut-être prendre un exemple concret j'incarne assez facilement l'histoire, puisque c'est justement l'histoire du tiers-lieu qu'on a créé à Marseille il y a quelques années au bord de l'eau à l'Estac, composé de 28 conteneurs réemployés en auto-construction, fait de réemploi, auto-financement, auto-gestion. Du coup, c'est un tiers-lieu qui est passé sous les radars des institutions, mais qui a permis justement de pouvoir créer un commun dans donc cet espace qui a été commun, géré par une communauté d'acteurs qui étaient les habitants aux alentours, avec une porte d'entrée multiple, puisqu'on a accueilli une diversité d'activités. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on, dans notre histoire, donc ça va répondre à votre question, c'est qu'on s'est retrouvé on était sur le foncier du GPMM, le Grand Port Maritime de Marseille, qui a pas renouvelé son autorisation d'occupation temporaire, et donc on s'est retrouvé un peu en porte-à-faux à devoir partir. Et à ce moment-là, on aurait pu faire une ZAD, c'était quelque chose qui était complètement faisable. Sauf qu'on a
une
pas
zone à défendre.
Oui. Sauf qu'on n'a pas choisi cette option-là. On a plutôt essayé de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait proposer en fait par rapport à OK, on sait qu'on doit partir. Et donc là, on s'est retrouvé donc la communauté de Tala a réfléchi à comment construire un avenir souhaitable sur ce territoire. Donc on était devenu par la force des choses experts de ce territoire dans lequel on a été, et on a développé un projet urbain d'aménagement urbain sur ce même territoire en imaginant comment pouvoir relocaliser l'activité, mais plus que ça, en impliquant, et là aussi on va pouvoir faire des liens avec Amerma, mais de pouvoir en impliquant aussi donc nous, tiers-lieux citoyens non marchands, un tiers-lieu marchand productif de type manufacture de proximité qui permettrait de pouvoir justement à avoir une certaine emprise sur la manière dont on peut habiter notre territoire, mais fabriqué par les habitants. Parce que c'est un peu ça la force des choses, c'est de se dire que derrière habitants, il y a architecte, il y a ingénieur, il y a cuisinier, il y a artiste, et en fait il y a toute cette capacité de savoir-faire et de compétences réunies par rapport à une donnée fondamentale qui est celle d'habiter son territoire. Et du coup, qui de mieux que ces gens-là pour arriver à imaginer un avenir heureux de ce territoire? Et on est vraiment à l'opposition de la pensée conventionnelle qui va commencer par la politique publique, les politiques publiques qui vont dire « bon ben là, on souhaiterait aller dans ce sens-là, donc on va faire intervenir un programmiste qui va dire « bon, on va développer un projet de cette manière-là ». Ensuite, il va passer par les financiers qui vont dire « ok, on va pouvoir le financer », puis après les architectes qui vont dessiner, pour ensuite arriver avec un dessin face aux habitants, en faisant de la entre guillemets concertation pour dire est-ce que ça vous convient, on peut à la marge modifier ça,
rajouter un arbre, puis c'est...
et ensuite on le construit, et au fur et à mesure que là tout ce que je vous ai dit en très très peu de temps, en fait ça prend beaucoup de temps, et que quand le projet est livré, il est déjà plus adapté aux besoins initiaux, et il est assez figé pour ne pas être transformé correctement par ceux qui l'habitent, donc ça n'a aucun sens. Donc là, justement, l'idée de l'émancipation individuelle et collective permet de pouvoir, à un moment donné, s'affranchir de mécanismes de fonctionnement, de fabrication de la ville, pour pouvoir être, justement, en accord avec la politique publique, en prenant comme... les habitants sont et les usagers finaux, mais aussi la ressource dans laquelle il faut utiliser pour pouvoir fabriquer le projet. Et ça, tant que c'est pas compris...
C'était un peu l'idée des habitats partagés.
C'est un peu plus que ça. Là.
Ouais, là, je pense qu'on touche vraiment du doigt la ville dans une démarche low-tech, puisque on a ces considérations de résolument utile, puisque en fait, c'est pensé par les habitants pour les habitants à leur destination propre. C'est durable parce que on a la population reste là et donc du coup, elle transforme son quartier en fonction des usages qu'elle en a et c'est accessible, évidemment, dans la définition même, puisque c'est fait par les habitants pour les habitants. C'est local, donc vraiment, on touche à quelque chose. Et surtout, ça apporte un sentiment à la fois d'autonomisation et vraiment d'apprentissage. Hein. C'est un apprentissage en commun, c'est vraiment habiter la ville. Et donc, du coup, là, on répond avec cette démarche low-tech participative. On répond aux enjeux que vous avez donné tout à l'heure sur se loger, finalement comment on habite la ville, comment on va se déplacer, on va pouvoir influer aussi sur les moyens de transport qu'on a envie. Bref, je pense que on a vraiment cette démarche low-tech là qui est très présente dans ce qu'a décrit Jonathan.
C'est ça, c'est la l'appartenance, le sentiment d'appartenance et puis pas plus que le sentiment l'appartenance à une communauté d'acteurs agissant dans son territoire. Fait en sorte que, en fait, quand on arrive à créer cette communauté d'acteurs, donc de citoyens agissants, les 5 points que vous avez relevés sont possiblement traités par cette même communauté d'acteurs, puisque ça va être eux les principaux concernés. Et après, c'est vraiment une histoire on commence à dériver sur la question de la gouvernance et de la politique, parce que quand on dit ça, pourquoi ça marche pas aujourd'hui? La question et la réponse un peu, c'est qu'il y a quand même, c'est aussi accepter une certaine déprise de gouvernance quand on fait ça. C'est qu'on, ça veut dire accepter de pouvoir avoir des communautés qui ont une possibilité d'action sur un territoire sans exactement savoir quel est l'objectif ni la finalité des actions qui sont menées. Donc ça, c'est quand même après on peut redériver encore plus loin. C'est des questions philosophiques. Après, c'est en quoi, et comment on peut arriver à laisser du doute intervenir dans la planification urbaine.
Ouais, je pense qu'il y a quand même t'as raison sur la déprise, t'as dit. Mais je pense que quand même il y a un rôle des pouvoirs publics quand même, des institutions. Donc après avoir à quel niveau, étatique, régional ou métropolitain, bref, sur des orientations à donner et des financements à donner pour orienter vers notamment le développement d'activités, comme on disait tout à l'heure, d'activités productives, mais qui soient faites pour le territoire sur lequel elles sont construites. Et sur ça, on a besoin quand même, on a besoin des pouvoirs publics, quoi. Mais parce qu'il faut donner en fait les moyens aux habitants que ce qu'on est en train de décrire puisse arriver en fait.
C'était un peu l'idée des écoquartiers aussi, mais maintenant on met écoquartiers n'importe où.
Ouais, moi j'en ai visité un à Toulouse là. J'ai un ami qui vient d'emménager dans un écoquartier à Toulouse qui s'appelle la Cartoucherie, je crois. Et c'était pas mal. J'étais agréablement surpris quand même parce qu'on a des espaces quand même qui sont laissés aux citoyens pour qu'ils s'approprient leur quartier. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce que ok, le bâti et donc il y a des écomatériaux, c'est réfléchi, c'est machin, etc. Mais c'est pas forcément les habitants qui ont conçu les immeubles et peut-être encore heureux. mais voilà, il y a des transports en commun, il y a des lieux de vie, il y a des lieux de travail puisque par exemple là. À Toulouse, c'est à côté d'Airbus, en fait. Hein, donc, voilà, il y a quand même des lieux de travail, des bassins d'emploi importants. Mais il y a quand même des espaces qui sont laissés aux citoyens pour qu'ils puissent s'approprier leur quartier, justement. Et je trouvais que c'était vraiment, vraiment intéressant.
Parce que l'idée de l'éco-quartier, initiale, c'était quand même les citoyens qui construisaient leur quartier. Or, nous, sur Antibes, on a eu le label Éco-quartier sur un quartier qui n'a rien. C'est un promoteur qui a posé des immeubles, ils ont acheté des apparts, et il n'y a même pas d'espace commun.
Non, voilà, c'est donc juste... C'est isolé, bien isolé énergétiquement, ouais, et c'est tout.
Ouais,
quoi.
Et voilà, donc il a quand même, l'État a donné le label Éco-quartier. Bon, nous, on disait, et des collègues, on disait, jamais ils auront le label Éco-quartier. Mais bon, ça fait... Alors, la question qui se pose dans ce système-là aussi, c'est de satisfaire des besoins. Comment on satisfait les besoins donc de la population, on préserve les ressources, en préservant les ressources naturelles, les ressources plus locales. Enfin voilà, il y a quand même cette question-là qui est une question qui est prégnante. Mais au jour d'aujourd'hui, on se pose quand même la question de dire comment on répond aux besoins en préservant les ressources. Et donc, comment vous, dans votre projet, dans votre réflexion, vous abordez ça?
Mais je pense que dans la démarche low-tech, il y a cette idée de sobriété. Ça, c'est quelque chose qui s'oppose vraiment à la démarche de la smart city, où on va chercher plutôt l'efficacité énergétique à tout prix, contrôlée par tout un tas de capteurs et ce genre de choses. Dans une démarche low-tech, on va plutôt essayer d'avoir une sobriété recherchée, quoi. Et souvent voulu et volontariste. Enfin, volontaire, pardon. Donc ça, c'est la première chose. Le truc, c'est que pour avoir cette sobriété, aujourd'hui, elle est vue un peu comme des interdictions, comme on va nous empêcher de faire ci, on va nous dire il faut plus prendre l'avion. Et on en discutait tout à l'heure. Je pense qu'il faut un changement d'imaginaire et tout ce qu'on va utiliser comme sémantique, par exemple, sur la ville intelligente, pourquoi elle serait intelligente. Bref, il y a tout un jeu à faire sur les récits, sur les imaginaires, sur finalement se questionner sur qu'est-ce qui est enviable, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal, et comment on transforme ce qui aujourd'hui est vu comme complètement aberrant en des choses normales. Donc par exemple, faire une demi-heure de vélo pour aller au travail aujourd'hui, ça rentre finalement dans une certaine normalité. Il y a un changement de culture, et en fait ce changement de culture, il le faut à différentes échelles. Il le faut pour beaucoup de choses. Et en changeant un petit peu la façon dont on perçoit nos imaginaires, quoi, on va pouvoir arriver déjà à se questionner réellement sur des besoins. Je pense que aujourd'hui, c'est pas la bonne question de se dire comment on peut répondre aux besoins qui sont ceux d'aujourd'hui. Parce que finalement, je pense qu'il faut changer la façon dont on les conçoit. Donc ça, c'est la première chose, quoi. Et ensuite, pour répondre aux besoins, il faut, en effet, comme on disait tout à l'heure, se questionner avec les habitants sur, finalement, qu'est-ce qui est utile au quartier qu'on habite. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'une piste cyclable en plus? Est-ce qu'on a besoin finalement de développer une AMAP? Est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on a besoin de loisirs pour les enfants? À Marseille, par exemple, les piscines, ça manque. Donc on sait que on a besoin, même si c'est pas un besoin essentiel comme se nourrir, on a besoin de piscines pour les habitants. Et du coup, en se posant vraiment la question pour les habitants, on arrive finalement à identifier les besoins réels et, à mon avis, à y répondre avec des communautés habitante, quoi.
Agora Connexion. I thought you said meet at dawn and bring your second. A twisted, muddled morning, trudging in wet boots. Can you see my forehead's cool? Taking our ground, and it's time to turn around. Two snaps and a hit, I stumble at the knee. Why do you always challenge me?
Alors, on parlait des besoins des citoyens. Et comment on prend en compte, disons, la dimension sociale? Donc, pour développer, vous allez parler tout le temps, mais peut-être qu'on peut revenir quand même dessus, la dimension sociale, la dimension environnementale, et puis quand même la place de la technique, parce qu'on ne peut pas ignorer quand même, on en a besoin quand même. Donc comment vous voyez ces trois dimensions
Oui, c'est vrai qu'on l'a abordé.
On l'a abordé, mais là, je voudrais revenir quand même.
Je pense que pour répondre aux trois questions, je pense que la réponse, elle se trouve au niveau de la culture, en fait. C'est-à-dire que arriver à justement, pour rebondir à ce que disait Lucas, sur la création d'imaginaire pour un avenir désirable, on doit passer par un changement de modèle, un changement de certains types d'idéologies. On a parlé des besoins, des habitudes, enfin comment on arrive, et en fait la culture est l'élément qui va nous permettre de nous amener à justement relier tous ces éléments là de manière incarnée et pas subie. Et ça, c'est clair que aujourd'hui, on a besoin de récits. Aujourd'hui, on a besoin d'imaginaire, mais aussi aujourd'hui, on a aussi beaucoup besoin de faire, dans le sens où
d'être actif
dans justement ce type se questionner à travers des démarches incarnées. Il faut arriver à pouvoir ne plus attendre, de ne plus laisser aux autres la possibilité de répondre aux questions qu'on pourrait arriver à explorer soi-même. C'est un peu ça.
Ça me renvoie à ce que je voulais aborder, enfin vous abordiez, c'est qu'on passe à une ville du partage, de la coopération. Mmh. On ne vit plus à côté, on vit ensemble.
Mmh. Ouais. Arrête aussi de faire pour et on fait avec. Ça fait partie, pareil, on joue avec les mots, mais en réalité, c'est aussi
une autre
comme
manière
ça
que de penser, d'agir aussi. En prenant en compte, disons, l'ensemble de la communauté, pour prendre un mot.
Et tout ce qu'on dit sur la ville depuis tout à l'heure, nous, c'est transposable aussi aux espaces qu'on veut, aux espaces industriels finalement qu'on veut développer avec Amermain, qui sont aussi donc et qui sont évidemment des espaces de travail, mais qui sont aussi des espaces d'échange, de formation, de convivialité, et où on va faire ensemble, comme tu disais, faire avec et pas faire pour. Et en développant, on a l'impression, ces espaces à la fois de travail, à la fois apprenants, à la fois conviviaux, on a l'impression qu'on va pouvoir répondre à des besoins identifiés par le territoire en faisant vraiment attention à l'aspect social et environnemental des activités qu'on propose. Parce que c'est fait résolument dans ce sens-là, en fait. C'est fait pour que ce soit utile pour le territoire et que ce soit maîtrisé, et que ce soit des emplois qui soient plutôt agréables.
Et du coup, les déplacements s'abordent différemment aussi, puisque on n'a plus besoin de faire une heure de route pour aller travailler. Il y a aussi cette approche-là.
Ouais, surtout chez nous, enfin c'est agglomération dense quand même entre la métropole, enfin sur toute la métropole Aix-Marseille, et quand on voit le nombre de voitures, alors que bon, c'est
on a Sofia, 40 000 salariés, enfin 40 000 personnes qui rentrent tous les matins, qui sortent tous les soirs, parce que on n'habite pas à Sofia. C'est ça le problème. Je trouve que c'est un bon exemple, parce qu'il y a des bureaux. Moi, j'ai envie de vous dire, je vais proposer que vous veniez travailler sur ce site, parce qu'il y a des bureaux vides, il y a de l'espace encore, parce qu'il y a, à la création de Sofia Antipolis, il y avait quand même, dans le cahier des charges, de garder beaucoup d'espace vert. Donc, il y a de l'espace à aménager. Et donc, c'est vrai que j'ai vraiment envie de vous dire, là, vous avez un terrain à mettre de la proximité avec
Ben oui, il faut ouvrir les espaces. On a eu une tendance dans les dernières années à penser, je disais tout à l'heure, par rapport à, enfin, une pensée en silo par rapport aux compétences, mais aussi une pensée en silo par rapport aux espaces. Et du coup, aujourd'hui, clairement, ces types d'espaces dont vous parlez, ils ont été pensés quand même de manière, c'est du zoning où on va avoir une mono-activité. Et donc, pour arriver à justement générer les situations qui permettent d'arriver à repenser la ville autrement, on a besoin de ces interactions multiples.
Et de mailler, du coup, les territoires aussi.
Oui. Oui, oui.
Oui, tout à fait. C'est un peu comme tout, on a essayé de simplifier en isolant les domaines, les lieux, tout ça, en essayant de simplifier finalement une complexité qui est naturelle. Et ce qui est beau, on le voit, c'est cette complexité, justement, les interactions entre les gens, entre les lieux, entre les espaces, entre tout ça.
Alors, en conclusion, j'ai envie de citer Philippe Hux, dont on a parlé, qui dit qu'en 2040, la convivialité, l'humilité, l'effort, l'adaptabilité et un rapport au monde plus concret sont devenus le nouvel idéal de vivre. On a remis du sens dans nos vies. Alors moi, j'ai envie de dire que 2040, c'est très loin, mais est-ce qu'on est, c'est utopique pour vous ou non? Ça y est, on y va, on est dans cette, on va vers ce...
Nous, on essaye de faire en sorte d'y aller.
Avant
2040, ce serait bien.
On y est déjà, en réalité.
On y est déjà.
La ville de demain, c'est celle d'aujourd'hui. C'est juste la manière de l'habiter qui change. Donc, du coup, Moi, j'apporterai deux mots en plus. C'est le soin et l'attention dans les mots que vous avez cités.
Il a cité, oui. C'est pas moi, hein, c'est Philippe Biouli. Je cite mes sources. Hein. Alors d'ailleurs, quelques ressources complémentaires parce que on n'a pas tout dit, on n'a pas pu. Donc effectivement, Philippe Biouli, là, vous tapez sur Internet, vous trouvez plein de choses. Le rapport dont vous parliez sur l'industrie, quand même, moi je l'ai lu, donc tout le monde peut le lire. Oui. C'est pas parce que ça parle d'industrie. Explique, voilà, le rapport de l'ADEME et de la REP, là, c'est ce que j'avais vu. Alors, après, j'étais intéressée, vous allez me dire ce que vous en pensez, Caroline Putz, qui, elle, a testé, elle est allée vivre dans le désert, elle a testé vivre de peu, quoi.
Ah oui.
Et en économie circulaire à 100%.
Moi, je trouve que, y en a eu pas mal des initiatives comme ça. On peut penser aussi aux Nomades des Mers, là, du Low-Tech Lab, où ils ont fait un peu le tour du monde des alternatives low-tech et ils les mettaient en place sur le bateau. Je trouve que c'est sympa parce que ça fait voyager, ça développe des imaginaires, justement, de, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec peu. Après, voilà, est-ce que c'est viable pour tout le monde et est-ce que
c'est ça, comment on le transpose,
ensuite comment on fait en sorte que des initiatives puissent passer à l'échelle. Nous, c'est un peu ce qu'on essaye de faire.
Merci beaucoup à tous les deux.
Je vais juste citer aussi un rapport qui est super intéressant, une étude qui s'appelle La Ville Low-Tech de l'Institut Paris.
Je l'ai.
Et qui est vraiment bien. Ouais.
Je l'avais aussi. Merci encore à tous les deux.
Merci
nous
beaucoup.
Nous retrouvons le mois prochain pour un autre Alter Regard.